Alors effectivement, ce dont je vais vous parler, c'est dans le cadre de la diversité humaine, l'idée qu'on peut utiliser la génétique des populations comme outil au service de la santé et de la santé publique en particulier, et voir comment finalement retracer des mouvements d'hier dans les populations peut permettre de répondre à des questions d'aujourd'hui. Et puis si on a le temps, on pourra aborder les enjeux de société qui s'attachent à certaines de ces thématiques. Alors ce que j'ai l'intention de faire avec vous là, c'est de faire peut-être quelques rappels de génétique. Pour certains d'entre vous, ça va être des rappels, pour d'autres, ça va peut-être être de la nouveauté. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. De voir un peu comment on trace l'histoire, en fait, à travers des études de diversité génétique. Et puis comment ces paramètres, ces éléments de la génétique humaine, on peut les utiliser. Et je vous donnerai quelques exemples d'outils. J'ai appelé ça des outils, parce que finalement, c'est ce sur quoi on s'appuie pour faire des recherches. Qui sont presque des infrastructures aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que la génétique utilise des plateformes technologiques, qu'il y a du séquençage qui se fait à haut débit, et donc on a changé un peu de planète, de la génétique très ponctuelle sur un gène, un caractère, à une génétique qui s'adresse beaucoup plus globalement à l'ensemble du génome. Et est-ce que tout ça pose des nouvelles questions? Ce sera peut-être vous qui les poserez. Alors on va commencer par les rappels de génétique. On dit la génétique, on pourrait dire les génétiques. On dit la génomique aussi. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vais vous donner quelques repères historiques sur le développement en fait de cette discipline qui est la génétique et qui étudie donc la diversité génétique humaine. Sa caractéristique, enfin une de ses caractéristiques, c'est qu'elle ouvre à la fois sur le passé. On peut remonter un peu l'histoire de l'humanité jusqu'à un certain point avec des études de génétique, et elle ouvre sur le futur. Vous avez probablement tous entendu parler de médecine prédictive, j'aime pas trop ce terme, en tout cas de diagnostic qu'on peut faire grâce à la génétique avant l'apparition de signes cliniques de maladies. C'est grâce en fait à la structure du génome humain, on a tous le même nombre de chromosomes, globalement la même structure de génome, qui fait qu'on appartient à l'espèce humaine sur le plan biologique. Donc c'est le caractère qui est très partagé. On parle dans une grande déclaration de l'UNESCO qui date de 1997 sur le génome humain, on parle au sens symbolique de patrimoine de l'humanité pour le génome humain. Mais en même temps, et vous savez tous ça aussi, il y a ce qu'on appelle les empreintes génétiques, et quand on regarde de près, chacun a un génome unique. Et ça devient une carte d'identité biologique, si vous voulez. Donc, grâce à toutes les combinatoires qui se passent dans les familles, au moment où, de la fabrication des spermatozoïdes ou des ovules, et dans l'évolution, avec tous les événements génétiques qui font évoluer ce génome. Donc, on peut dire que, finalement, le génome, c'est l'élément du corps le plus partagé avec le reste de l'humanité et le plus privé. Alors là, on remonte un peu l'histoire. 1865, c'est peut-être des choses que vous avez étudiées, les lois de Mendel, vous savez, les petits pois ridés, les jaunes, verts, etc., qui se transmettaient. Et ben, c'est 1865, la date où finalement ces lois premières de la génétique ont été émises. Au début du XXe siècle, on découvre un premier, alors je vais parler souvent de polymorphisme, plusieurs formes. C'est-à-dire de la variation. On découvre quelque chose que vous connaissez tous aussi, les groupes sanguins. C'est un des premiers polymorphismes génétiques qui a été trouvé. On ne savait pas étudier l'ADN à l'époque, on ne connaissait pas sa structure, mais on travaillait avec les cellules sanguines, les globules rouges, et on a découvert donc, la transmission et le caractère génétique de ces groupes qui variaient entre personnes. Tout le monde n'a pas le même groupe sanguin. Ça doit vous paraître évident, au moins je pense pour la plupart d'entre vous, qu'il y a un lien entre hérédité et chromosome. Mais ce n'est pas si vieux que ça, le moment où ça a été vraiment fait, ce lien-là, entre hérédité et chromosome, 1903. Et la première fois où on a parlé de gènes et de génétique, c'était 1905. ça doit vous paraître très très loin à l'échelle de votre propre vie, mais à l'échelle même de la science, c'est pas si vieux que ça. Alors la première maladie génétique, qui est une maladie du métabolisme, a été décrite en 1908, et puis la première fois où on a employé le mot génome, c'était pas à propos du génome humain d'ailleurs, c'était dans un domaine chez les plantes, c'était en 1920. 1949, la première fois où on parle de concept de maladie génétique moléculaire. C'est à propos d'une anémie particulière qui est due à une mutation sur le gène de l'hémoglobine. Et c'était cette première description. En 1953, j'espère que vous connaissez cette date, c'est la découverte de la structure de l'ADN, Watson et Crick, la fameuse double hélice dont vous avez certainement vu des schémas dans vos bouquins. Alors en 1956, on se rapproche petit à petit, c'est là qu'on a su combien on avait de chromosomes chez l'homme. Jusque-là, on ne savait pas. Donc ça paraît un peu ubuesque qu'on attend 1956, mais c'est le cas. Et en 1959, la maladie de la trisomie 21, qu'on connaît sous le nom de mongolisme, a été décrite. Et puis là, vous avez entendu parler des diagnostics prénataux. Et le premier diagnostic qui s'est fait par prélèvement aminosynthèse chez une femme, ça s'est passé en 1966. On saute un peu. 75, grande date, les premières séquences. La première fois qu'on fait du séquençage. À l'époque, faire une séquence d'un gène, c'était extraordinaire. On a publié ça, c'était la première page dans les grands journaux scientifiques. Aujourd'hui, ça se fait à l'appel avec des machines, et puis on n'aurait plus l'idée de publier la séquence d'un gène. Ça ne se publie plus, c'est plus assez original. Ensuite, on a pu cloner ces gènes. Et deuxième date importante sur le plan des techniques et des technologies, l'amplification de l'ADN, la réaction de polymérisation en chaîne, c'est-à-dire la capacité de faire copier un petit bout d'ADN un nombre de fois important pour finalement avoir une grosse quantité de cette petite portion de génome. Et il y a énormément des techniques, que ce soit au niveau diagnostic, médical ou en recherche, qui sont basées sur cette technique. La même année, il y a un scientifique, un généticien anglais, qui a découvert ce qu'on appelle des mini-satellites. Alors ça n'a rien à voir avec les satellites dans l'espace. Ce sont des répétitions d'ADN. Et en fait, c'est là-dessus que sont basées les empreintes génétiques qu'on utilise, par exemple, dans la police scientifique. Vous voyez, l'amplification génique et la découverte de ces éléments de l'empreinte génétique, c'est à peu près en même temps, en 85. 86, c'est une date importante, c'est le démarrage de ce qu'on appelait le programme génome humain. Alors qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Ça veut dire que les scientifiques, et évidemment les institutions qui les gèrent, qui les emploient, se sont organisés au niveau international pour, d'une certaine façon, se partager le génome en disant, toi, tu vas séquencer, faire la carte et puis la séquence de tel chromosome. Dans telle équipe, on va s'occuper du chromosome 19. Dans telle autre équipe, dans tel autre pays, on va s'occuper d'un autre chromosome. Et il y avait cette espèce d'organisation au niveau international. C'était quasiment une première dans l'histoire de la science biologique, génétique en particulier. Alors à partir de là, le train s'est emballé et il y a eu, jusque-là, vous avez vu, c'était des dates, il se passait quelques années ou dizaines d'années entre les grands événements. Mais là maintenant, je pourrais plus, il me faudrait 25 diapositives si je voulais aller dans le détail. Il y a eu une accélération, on a découvert et on est arrivé à placer sur le génome, à cartographier des marqueurs génétiques, ces fameux polymorphismes sur lesquels on va revenir et qui sont à la base de la variation dans le génome humain et dans les génomes en général. Donc on a obtenu des cartes génétiques, d'abord avec des marqueurs qu'on appelle des microsatellites, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ce sont des petites séquences d'ADN, d'une 6 nucléotides à peu près, et qui sont répétées un nombre de fois, 10 fois, 15 fois, et ce qui varie, donc ce qui donne les plusieurs formes, ce qui varie, c'est pas la séquence elle-même, c'est le nombre de répétitions de cette séquence entre, par exemple, vous et moi, ou deux personnes dans cette salle. Donc ça, ce sont des petits marqueurs Et on voit apparaître donc des différences entre génomes. Ce qu'on a ensuite, ce qu'on a travaillé depuis les années 2000, disons les microsatellites, c'est les années 90, les SNP, ce sont des nucléotides, des changements de nucléotides simples à un endroit dans la séquence d'ADN. Et là, ce sont les marqueurs des années 2000, si on peut dire comme ça. Et il y en a énormément dans le génome. Vous voyez, en 2004, on en connaissait déjà 3 millions. Vous savez qu'on a eu une séquence quasi complète du génome humain dès 2001, qui s'est ensuite complétée. Et on avait quelque part la séquence d'un génome. Et après ça, on s'est dit oui, mais on sait qu'on n'est pas tous pareils, qu'il y a des différences au niveau du génome. Et donc, à la suite de ce qu'on a pu appeler la séquence du génome humain, on a mis, et c'est là-dessus que se passent la plupart des recherches actuellement, sur l'étude des polymorphismes, de la distribution de ces variations dans les populations humaines et chez les malades. Alors ça, je crois que je vais passer, mais je pourrais laisser mon diaporama. C'est le génome en chiffres. Combien il y a de bases, combien il y a, vous savez que l'ADN est fait d'adénine, thymine, guanine et cytosine, combien il y a de couples adénine, thymine, guanine, cytosine. Ça n'a pas grand intérêt de vous balancer ça en début d'après-midi avec des chiffres, mais ça peut avoir de l'intérêt de voir par exemple ce qui est sur la dernière ligne ici, qu'il y a une variation, donc une variation d'un nucléotide tous les 1250 nucléotides. Donc dans le génome humain, évidemment c'est une distribution statistique, c'est pas mathématique, 1249 et puis une différence, 1249 et une différence, hein, c'est globalement et en moyenne une différence toutes les 1250 bases. Ça vous montre qu'il y a différentes sortes de gènes qui ont des fonctions différentes, et donc après avoir fait la séquence, après lui avoir donné du sens en trouvant où sont les gènes dans cette séquence, il y a les étapes qui concernent l'établissement des fonctions de ces gènes, et tout ce que je vous ai dit jusque-là peut permettre de revenir sur finalement qu'est-ce qu'on veut dire, quelle est la différence quand on parle de génétique et quand on parle de génomique. Alors quand on parle de génétique, en général, les objets qu'on étudie, c'est un ou quelques gènes. On étudie leur transmission, le caractère héréditaire. Et on étudie d'abord leur structure, puis leur fonction. Et les ancêtres de cette génétique, c'est sur le plan d'études de l'ADN, c'est ce qu'on appelait, quand moi je faisais des études, la biologie moléculaire, la génétique moléculaire. On fait énormément de statistiques pour analyser des données génétiques. Et quand on parle de génomique, l'objet c'est le génome, c'est cet ensemble dont je vous ai passé les chiffres, un nombre de gènes, un nombre de paires, une quantité de séquences énorme. On parle d'une étude globale au niveau d'un organisme, ou d'un organisme ou d'une cellule. Il y a une espèce de changement d'échelle et il y a un changement d'outil. On n'est plus là à faire une séquence ponctuelle, mais on fait de la séquence à haut débit, avec des plateformes technologiques où on utilise des puces à ADN dont vous avez peut-être entendu parler. On s'intéresse beaucoup à l'expression des gènes, c'était les fonctions là, dont je vous ai juste parlé. Et il y a une science qui est complètement née de cette capacité à produire beaucoup de données, qui est la bioinformatique. Parce qu'à un moment donné, on a produit tellement de données de séquences, de données de polymorphismes, que les méthodes de stockage, de gestion de l'information n'étaient pas adaptées. Et finalement, aujourd'hui, il y a plein de métiers qui sont des métiers de la bioinformatique et qui n'existaient pas du tout il y a 20 ans. Alors comment on passe du gène jusqu'à une protéine ou plusieurs protéines? Et quand vous entendez parler de génome, génomique, maintenant il y a tout un tas de omiques qui sont arrivés sur le marché, si on peut dire, qui sont la génomique, la protéomique. Alors en fait, ça veut dire qu'on étudie à l'échelle d'un génome entier ou des produits qui s'y attachent les différentes étapes qui passent de l'ADN jusqu'à un produit dans une cellule. Alors les champs qui sont concernés, donc les domaines qui sont concernés par cette génétique quand on l'applique chez l'homme, C'est évidemment des études de maladies monogéniques. Il y a eu un téléthon, là, il n'y a pas longtemps, on a entendu parler de tas de choses, donc je ne vais pas y revenir. Mais dans cette génétique-là, on fait le diagnostic avec les outils qu'on a la connaissance et puis les kits de diagnostic qui sont développés. Il y a, et c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement, les maladies dites pluri- ou multifactorielles, dans lesquelles il y a un ou plusieurs, en général plusieurs, facteurs génétiques qui interviennent, mais n'interviennent pas tout seuls. Il y a des facteurs d'environnement, des tas d'autres éléments qui entrent en jeu dans l'arrivée, la survenue et l'évolution des pathologies. Donc là, la génétique apporte des notions de facteurs de risque. C'est quelque chose de beaucoup moins carré, j'allais dire, qu'un diagnostic. Et puis, il y a d'autres domaines, j'évoquerai peut-être le domaine de la transplantation. Je vous ai parlé des groupes sanguins tout à l'heure, c'est de la génétique. Première application en médecine de ces éléments, ben c'est la transfusion sanguine. On n'y pense pas très souvent quand on vous parle de la génétique et des applications médicales aujourd'hui, mais c'est tout à fait important. Et à côté de ça, il y a d'autres utilisations, d'autres applications de cette génétique au niveau scientifique. On peut faire de l'histoire des hommes, en fait, des migrations grâce aux marqueurs génétiques. Étudier aussi des variations de caractère dans lesquelles la génétique joue un rôle, mais qui ne sont pas nécessairement pathologiques. Il y a par exemple des tas d'études qui se font sur l'olfaction. Les capacités de sentir sont basées sur un tas de récepteurs qui sont extrêmement variés. Il y a plusieurs gènes, plusieurs types de récepteurs, et il y a des polymorphismes, différentes formes, qui correspondent à des capacités de percevoir les odeurs différentes. On ne peut pas dire que c'est de la pathologie, mais c'est de la variation génétique. Alors ce qui se passe, c'est que tous ces polymorphismes dont je vous ai parlé, ils sont distribués différemment, il y en a de plus fréquents ou de moins fréquents, différemment selon les populations. Et on se sert en fait de cette capacité d'étudier le polymorphisme et de voir ce qui est par exemple plus fréquent dans une population et moins fréquent dans une autre, pour monter des études de génétique qui seront les plus informatives possibles par rapport en particulier à des études de maladie. Et quand on fait ça, on parle de la génétique épidémiologique, c'est-à-dire l'étude de la contribution génétique à la cause des maladies, ou on peut aussi appeler ça épidémiologie génétique. À ce moment-là, on parle plutôt des interactions entre génétique et environnement. Alors maintenant, je vais passer sur les traces de l'histoire dans la diversité génétique. Et ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée à un collègue de l'Institut Pasteur, qui dit finalement, la diversité génétique, elle est faible, mais elle est tout à fait importante. Et ce qui est représenté sur cette figure, au moins ceux de devant peuvent la voir, c'est effectivement un arbre de l'évolution des primates, donc tous les singes. Et là où il y a la petite flèche rouge, c'est là que se situe en fait la branche homme dans cet arbre de l'évolution. Alors en moyenne, rappel, deux personnes, deux humains, diffèrent entre eux à 3 millions de positions dans les paires de base du génome. Ça représente à peu près 1% de différence. 99% est partagé dans notre ADN, entre tous, et 1% est variable. Alors qu'est-ce qui joue sur cette diversité génétique ? Des phénomènes génétiques, mutations, sélection, des phénomènes liés aux populations, quand des populations migrent d'un endroit à l'autre, étant donné que ce qui est présent au niveau diversité génétique n'est pas nécessairement le même partout. Quand on migre, évidemment, on migre avec ses gènes et on les transmet là où on va. Donc la migration humaine entraîne des effets sur la diversité génétique des populations aujourd'hui. Et puis après, il y a tout un tas de forces culturelles qui n'ont rien à voir avec la génétique elle-même, mais qui influencent la diversité génétique. Par exemple, il y a des populations où il y a des traditions de systèmes de mariage, où par exemple l'oncle épouse la nièce, la famille. Il y a donc un certain degré de consanguinité. Quand il y a des systèmes comme ça, ça a une influence sur la diversité génétique au niveau de l'ensemble de la population. Donc on a donc un mélange, la diversité génétique qu'on observe aujourd'hui, elle est un mélange de l'histoire des hommes qui ont migré, de l'histoire du génome qui a muté, qui a eu un certain nombre d'événements, et de la façon dont on vit en fonction des forces culturelles et des habitudes culturelles dans une population donnée. Alors ça, je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a des petits points de différentes couleurs. Ces petits points de différentes couleurs correspondent dans cette carte du monde, hein, ici en bas, à une diversité génétique aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des endroits où on a plus de couleurs, en Afrique ici par exemple, où il y a du rouge, du jaune, du vert, et puis dans d'autres parties du monde, on n'a que du bleu et du jaune, et puis il y a par exemple un orange qui existe ici et ici, mais qui n'existe pas sur le reste du monde. Alors c'est une façon imagée de montrer que l'humanité, elle était à un endroit au début, à un endroit donné constitué généralement en Afrique. Les gens ont migré par petits groupes. Et puis le génome, il a continué d'évoluer, ou qu'on aille. Ce qui fait qu'il y a de la diversité génétique qui est apparue à un moment donné. Par exemple, quand les hommes étaient arrivés en Asie. Et qui s'est développée là, et de nouvelles diversités qui s'est développée là. Et en fait, dans le berceau de l'humanité qui est en Afrique, où il y a eu donc un plus long temps d'évolution, il y a une diversité génétique encore plus grande dans les populations africaines. Donc on lit à travers la diversité génétique qu'on peut étudier aujourd'hui avec nos outils, l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est une carte qui est basée, si vous voyez qu'il y a des nuances, si c'était plus noir, on verrait mieux, donc il y a des nuances de couleurs. Qui correspondent à peu près à des zones géographiques. Et c'est basé sur des études, non pas faites avec les marqueurs d'aujourd'hui, mais avec des groupes sanguins et des différents des groupes tissulaires. Cette carte date de 1993. Alors, ben, ça, c'est une séquence très attractive, comme vous voyez. Il y a des petits endroits là où vous voyez que finalement, ici par exemple, on peut avoir soit un G, soit un A. C'est ça qu'on appelle un SNP, un polymorphisme de séquence ponctuelle, simple. Et donc on en a un certain nombre, en gros tous les 1250, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors cette séquence en fait, ben, elle code un certain nombre d'éléments qui se traduisent par des apparences diverses et variées dans la population humaine. Elles se traduisent aussi par des capacités différentes d'interagir avec des micro-organismes. On n'est pas égaux devant les infections, en fonction de notre génome. Elles se traduisent aussi par des mutations et des sélections différentes, par exemple en fonction du climat. Ça, évidemment, vous reconnaissez un certain nombre de choses. C'est les éléments nutritifs de l'environnement qui peuvent jouer un rôle et interagir avec les gènes pour entraîner des variations. Et ça, ce sont des médicaments. Et il y a toute une science qui se développe actuellement qui s'appelle la pharmacogénétique. Alors, la pharmacogénétique, c'est finalement utiliser, étudier et ensuite utiliser la variation génétique en ce qu'elle a à voir avec la réponse aux médicaments. Et vous savez qu'il y a des médicaments qui marchent bien chez des gens, des médicaments qui ne marchent pas, et des médicaments qui entraînent des effets secondaires qui peuvent être graves. Et l'enjeu de la pharmacogénétique, c'est d'essayer de comprendre dans certaines chaînes métaboliques où se situent, quels sont les gènes, les éléments du génome qui sont en cause dans la réponse à ces molécules. Ce qui a pour effet d'éviter de traiter les gens qui sont de non-répondeurs à une molécule. En général, on est toujours... même si ça ne marche pas, on a quand même les effets secondaires des médicaments, il vaut mieux éviter. Ou de prescrire mieux et à la bonne dose les médicaments. Donc il y a des tas c'est le moment, si vous voulez, où la génétique rencontre la thérapeutique. Et ces développements-là sont de l'actualité scientifique, sont basés sur la diversité génétique et ont l'ambition d'aider à mieux traiter. Alors, la diversité génétique, je vous ai parlé du monde, je vous ai montré des grandes cartes. Qu'est-ce qui a né en France ? Ça, c'est des cartes un petit peu anciennes. qui date dans les années 85, 85 et 90. Et c'est basé, ces cartes en couleur, là où vous voyez à l'évidence qu'il y a des différences. Chaque couleur ou nuance de couleur correspond à une différence sur le plan génétique significative, si vous voulez, entre par exemple le nord-ouest ici, cette partie, et là où on est ici, le coin de Bordeaux, et ici on a quoi, le Pays Basque, etc. Donc vous voyez qu'il y a des nuances, et c'est entièrement... Ça marche toujours. C'est entièrement issu, à part la carte elle-même, sur des calculs qui sont faits à partir de diversité génétique dans 15 différentes régions de France. On a intégré sur 28 marqueurs, 28 locus. Donc ça, c'est ce qui explique cette carte, la plus grande partie de la diversité. La deuxième carte, vous voyez qu'on a un gradient plutôt sud-ouest, nord-est, explique une autre partie de cette diversité génétique. Et ceci explique à peu près 10% de la diversité génétique avec un gradient entre l'Ouest et l'Est. Donc quand vous connaissez quelques notions d'histoire de France, à travers tout ça, on retrouve en fait des mouvements de population. Et la dernière carte qui est ici complètement sur ma gauche, c'est en fait la superposition des trois cartes précédentes qui donne une espèce d'idée de la complexité de la diversité génétique, même au niveau d'un pays. Qui est le nôtre, et ça va en augmentant parce que cette étude-là avait été faite sur des familles donc de différentes régions, mais originaires de cette région-là depuis plusieurs générations. Donc ça ne donne même pas l'image de la diversité française aujourd'hui avec toutes les richesses de diversité génétique issues de l'immigration récente. Donc vous voyez comme c'est compliqué. Alors quand des personnes qui s'occupent de linguistique ont vu cette carte, elles ont dit, mais c'est intéressant, parce que cette carte, la plus complexe, hein, là, si on fait la carte des dialectes, des différents patois, des différentes langues régionales en France, ça ressemble beaucoup à cette distribution. Alors ça, c'est pas très étonnant, parce que finalement, en général, on rencontre et on reste avec des gens avec qui on peut parler, c'est dans la règle générale. Et donc il y a une vraie superposition entre la diversité linguistique, c'est vrai au niveau dans le monde, mais c'est vrai aussi au niveau d'un pays comme le nôtre, et la diversité génétique. Alors maintenant, on va s'approcher des paramètres de la variation génétique. Je vais passer sur ça. Je vous ai expliqué qu'il y a différents types de polymorphismes, et c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors ces petits de répétition de motifs d'ADN répétés jusqu'à 100 fois, ce dont je parlais tout à l'heure, ça s'appelle des microsatellites. Et il y en a donc sur tout le génome. C'était le premier outil marqueur avec lequel on a travaillé dans les années 90. Ensuite, je reviendrai avec ça après. Ensuite, on a travaillé sur, ou on travaille actuellement, sur ces fameux nucléotides simples de séquence, ces petites variations au niveau d'un nucléotide, dont je vous ai montré tout à l'heure quelques images sur une séquence. Alors ça a de nouveau, comme pour le projet génome humain dans les années 90, lancé une organisation internationale. Et les chercheurs dans plusieurs pays se sont dit, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on étudie de façon systématique la variation dans les génomes humains, donc le génome humain, mais les génomes humains. Il y a un projet qui s'appelle HapMap, pour carte des haplotypes du génome humain, qui s'est déroulé entre 2003 et 2005, et en fait qui continue, et qui devient un de ces outils de base dont on a besoin pour faire des études de maladies ou de populations. Alors l'idée, c'était de définir des profils de variation génétique dans tout le génome humain, dans différentes populations. Et pourquoi ça? Parce que, en fait, autant quand on ne connaissait pas beaucoup de marqueurs génétiques, bon, on faisait avec ce qu'on avait pour essayer de résoudre les questions qu'on se posait, est-ce qu'une maladie a des facteurs génétiques ou pas. Maintenant, on a des millions de marqueurs dans tout le génome. On ne va évidemment pas étudier tous les millions de marqueurs chaque fois qu'on se pose une question. Donc il y a toute une réflexion scientifique qui consiste à dire comment on choisit les bons marqueurs pour répondre à la question qu'on se pose. Alors évidemment, cette simple question n'est possible que quand on a le choix et beaucoup de marqueurs. Et cette espèce de catalogue des marqueurs avec leurs caractéristiques devient un élément important pour pouvoir faire de la génétique humaine. Alors les personnes qui ont été étudiées dans ce projet HapMap, c'est des personnes africaines, d'ascendance européenne et qui vivent aux États-Unis, des Chinois et des Japonais. En petit nombre, on couvre certainement pas toute la variation génétique, mais l'ambition de ce projet était de repérer les zones qui, où il y a des variations qui sont les plus communes, qui varient, qui ne sont pas les marqueurs rares, comme dans des maladies très rares par exemple, mais qui ont une fréquence d'à peu près 1% ou plus de variation, 1% ou plus dans le génome humain. Alors pourquoi HAP ? Je dis que ça veut dire haplotype. Et qu'est-ce que c'est les haplotypes ? Alors vous voyez ici, j'espère que vous le voyez, un chromosome rouge et un chromosome bleu, qui sont des chromosomes ancestraux qui ont existé il y a beaucoup de générations. Vous savez qu'autour des divisions qui s'appellent les méioses, il y a des échanges de matériel génétique entre les chromosomes. Et au bout du compte, quand il y a ici beaucoup de générations, il ne s'agit pas d'une génération, mais de beaucoup de générations, on se trouve avec des patchworks de ces chromosomes initiaux. Et en fait, les haplotypes sont la coexistence sur une petite portion de chromosomes de plusieurs marqueurs génétiques qui sont transmis en général en bloc à la génération d'après. Et en fait, ce qu'on cherche à savoir, c'est si les SNP, donc ces marqueurs, peuvent permettre de repérer des zones de variation. Autrement dit, on cherche le tag, on parle de tag, effectivement, l'étiquette, le marqueur, qui va être caractéristique d'une région de nom. Donc effectivement, on a dans ce projet HapMap, il y a caractérisation des variations ponctuelles, repérage de ce qui peut être caractéristique de toute une région. Et vous voyez que ici, en allant faire le typage de ce marqueur, celui-ci et celui-ci, on est capable de définir la variation entre ces différents chromosomes ou haplotypes. Donc tout ce travail de base, extrêmement systématique, extrêmement en soi pas forcément passionnant, si au bout du compte que ça ne devient passionnant, est intéressant parce que c'est un outil pour de nombreux chercheurs et qui est, les données sont publiques. Vous allez sur le site dont il y avait l'adresse là, HapMap, Google HapMap, vous tombez dessus et vous pouvez décharger des données et vous en servir pour votre propre projet. Alors ça, c'était un exemple, je crois que je vais le passer. On va passer là-dessus. Il y a un autre type de variation dans le génome humain qui est connu depuis un petit peu moins de temps et qui consiste en une variation du nombre de copies de gènes. Vous savez qu'au cours de l'évolution, les gènes, en fait, ils se dupliquent. Et puis, il peut y en avoir des tripliqués. Et puis, on peut avoir... Et puis après, chacun évolue pour son propre compte. Donc, on a des copies... des nombres de gènes copiés de l'un sur l'autre au cours de l'évolution qui peuvent être variables. À un endroit, dans une région du génome, vous pouvez par exemple avoir deux gènes, et moi j'en aurai trois, ou vous en aurez quatre, qui ont à peu près les mêmes fonctions, mais qui sont issus en fait du même ancêtre. Et on est en train, depuis quelque temps, vous voyez ça, c'est une référence de 2006, là, de rechercher dans l'ensemble du génome humain, notamment grâce aux données du projet HapMap, toutes les zones du génome où il peut y avoir des nombres variables, disons, de la même famille de gènes. Et c'est assez important, on ne s'en doutait pas en fait avant, parce que ces régions avec des nombres variables de copies de gènes représentent une plus grande proportion du génome que les variations ponctuelles de séquences, même en additionnant toutes les variations ponctuelles de séquences qui existent. Donc on est en train de se demander à quoi ça sert, est-ce qu'ils ont un rôle, ces nombres de gènes variables, et en particulier dans des pathologies. Alors actuellement on en est où ? On a une bonne couverture du génome, si vous voulez, on couvre à peu près la variation sans être exhaustif. Ce sont des variants communs, c'est-à-dire retrouvés chez d'assez nombreuses personnes, qui sont impliquées dans les maladies multifactorielles, comme les diabètes, un certain nombre de maladies cardiovasculaires, par exemple. Et on étudie, en fait, comment on fait pour étudier des maladies ? On étudie des marqueurs sur l'ensemble du génome, soit dans des familles, et à ce moment-là, dans les familles, on étudie la transmission, la co-transmission des marqueurs et de la maladie, pour essayer de reparer là où c'est transmis ensemble, hop, c'est là qu'il y a un gène impliqué. Ou bien alors, on compare la distribution de ces marqueurs génétiques dans des groupes de malades et dans des groupes de non-malades. On appelle ça des études d'association. Alors vous voyez ici représenté schématiquement le fait qu'il peut y avoir des maladies qui sont principalement génétiques et d'autres qui sont principalement environnementales. Mais en fait, il y a tout un gradient entre les deux. Alors dans les maladies qui sont dites multifactorielles, comme par exemple le diabète, hein, ou les différentes sortes de diabète, met la puce à l'oreille, si vous voulez, pour la génétique, avant d'aller chercher les moindres marqueurs, c'est que vous voyez ici une population générale, et puis la distribution, on appelle une courbe de distribution, des gens qui sont non malades, et puis une petite proportion, là-bas, en bleu sombre, qui sont des atteints de la pathologie qu'on étudie. Et chez les parents du premier degré, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs ou les enfants du patient, la probabilité de développer la même maladie est supérieure, et vous voyez qu'ici, cette courbe représente un plus grand nombre de personnes. Donc il y a un risque plus élevé de développer une pathologie quand elle est déjà dans la famille. Alors là, c'est quelques exemples. Les diabètes dont je vous parlais, finalement, ce qui est là, c'est quelque chose qui est très simple. Derrière, il peut y avoir beaucoup d'études, mais la fréquence chez le parent du premier degré, elle est 5 à 10%, alors que dans la population générale, la fréquence de la même pathologie, elle sera 0,2 à 0,3%. Donc vous voyez que ça varie suivant les études. Mais ça, c'est un des éléments qui pousse et fait chercher, le fait d'observer ça dans des familles, les marqueurs génétiques impliqués. Alors il y a, j'allais dire une bête, ça n'a rien à voir avec une bête, c'est une méthode qui fait actuellement l'actualité de la génétique des maladies communes. En anglais, on emploie l'abréviation GWAS. Ça veut dire genome-wide, c'est-à-dire tout le long du génome, hein, surtout la largeur du génome, étude d'association. Les Américains, ça donne quelque chose quand ils planchent, on a GWAS. C'est GWAS. C'est extraordinaire. Et ça veut dire ça. Alors, est-ce que c'est une mode ? C'est une mode dans la science. Ou est-ce que c'est une révolution ? En fait, on fait ces études d'association, où on compare donc des malades et des moines. Mais là, on le fait avec des centaines de milliers de marqueurs, chez des dizaines de milliers de patients. C'est-à-dire, on est à une échelle complètement décuplée par rapport à ce qu'on étudiait il y a un certain temps, quelques familles ou quelques centaines de patients et de témoins. Donc c'est ces outils technologiques de génomique et d'informatique qui rendent ça possible. Donc du coup, à partir du moment où on peut poser ces questions, on dit, bon, mais il nous faut, entre guillemets, des grandes bases, des grandes banques, des grandes collections, d'échantillons de patients, avec des données cliniques, des données fiables, en très grand nombre, pour pouvoir enfin répondre à ces questions entre des interrelations entre environnement et génétique. Comme c'est très compliqué, il faut des grands échantillons pour des raisons statistiques. Et donc finalement, on en arrive à avoir besoin d'outils, autres infrastructures, à part les projets HapMap ou ce genre de données à disposition, qui sont des collections d'échantillons et de données associées, plus ou moins fines, au point de vue clinique. Et par exemple, en Angleterre, il y a un projet qui se développe actuellement, qui s'appelle UK Biobank, donc la Biobank, hein, collection d'échantillons biologiques anglaise, qui concerne 500 000 personnes. Il y il y a 500 000 Anglais qui sont actuellement motivés, enfin il y a des appels, ça se passe par le biais des médecins généralistes, il y a évidemment des explications, des consentements, les gens peuvent poser des questions, et qui acceptent de répondre à un questionnaire assez touffu, qui acceptent que leurs données de santé vont pouvoir alimenter pour certaines d'entre elles une banque au fur et à mesure que le temps va passer. Une banque, pas au sens financier, putain, bien entendu, une base de données, et qui accepte de donner un échantillon à partir duquel sera préparé de l'ADN, mais aussi du sérum, un certain nombre d'éléments, pour des études futures. Alors c'est ça, en fait, les enjeux dont je voulais vous parler, c'est que, autant, il y a quelques années, quand on interrogeait ou qu'on essayait de motiver des personnes, des patients ou des populations pour des études, c'était, on pouvait leur expliquer très exactement ce qu'on allait faire avec. Ça se passait dans les 2-3 ans qui suivaient. Quelquefois, on gardait les échantillons. Mais aujourd'hui, on fait évidemment ces grandes structures pour les 30 ans, les recherches des 30 ans à venir. On est complètement incapable d'expliquer précisément aux gens aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire avec les échantillons dans 30 ans, ou qu'est-ce que les générations futures de chercheurs, peut-être qu'il y en a parmi nous, feront avec ces banques de données. Donc là, il y a un vrai enjeu et qui est directement issu du développement, de ce changement d'échelle de la génomique, qui est, en particulier, qu'est-ce que veut dire le consentement éclairé précis quand vous parlez de 30 ans et que vous ne connaissez pas tous les développements qui seront faits avec ces échantillons. Donc, du coup, ce qui se développe, c'est de la consultation des publics, du débat démocratique à propos de ça. Alors que ça ne se faisait pas avant, c'était toujours le médecin et le patient, les chercheurs qui faisaient l'appel à petite échelle. Maintenant, on se dit, c'est tellement important, on parle de 500 000 personnes, on parle d'un million dans d'autres domaines. On lit toutes ces bases entre elles. Alors évidemment, il n'y a pas les noms des gens. Hein, et donc, il y a des enjeux de société directement issus du développement, au sein même des recherches, du développement des outils de la génomique et de l'étude de la variation. Alors je crois que je vais m'arrêter là, parce que je voudrais bien que vous posiez vous-même des questions. Merci en tout cas de votre attention.